Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Nav avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Bonjour à tous et belle nouvelle année à tous. On entame un premier rendez-vous de la biodiversité samedi en cette année 2024 avec un beau paysage, beau en toute saison, celui des marais. Il regorge de biodiversité et des hommes et femmes œuvrent aussi pour y favoriser la biodiversité. C'est le cas de nos invités qui représentent aujourd'hui le syndicat mixte des marais de la vie du Ligneron Dijonnais. Bonjour Ludovic Priot, bonjour Pierre Travers.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors les actions, nous allons le voir, que vous menez sont multiples en faveur de la biodiversité, en faveur par exemple des anguilles, contre les plantes envahissantes aussi. Mais d'abord, on peut vous présenter. Quel est votre parcours? Quelles sont aussi vos fonctions au sein du syndicat mixte, Ludovic?
Donc moi, je suis technicien à rivière et marais, donc au syndicat mixte. Donc je m'occupe de tout ce qui est le suivi et la mise en œuvre des travaux de restauration des cours d'eau et des marais. Et donc je suis au syndicat depuis maintenant un peu plus de 20 ans, 2003. Voilà.
Vous êtes arrivé tout jeune, je pense, hein?
C'est ça, tout à fait.
C'est quoi votre parcours pour arriver au syndicat?
Donc du coup, pour arriver au syndicat, moi j'ai fait un BTS en gestion et maîtrise de l'eau, donc aux Etablières, à La Roche-sur-Yon. Et ensuite un TS Plus à l'époque, hein, en agro-environnement et aménagement rural.
Et vous, Pierre Travers, alors quelle est votre fonction au sein du syndicat? Et puis quelles sont les études que vous avez menées pour y arriver?
Alors effectivement, moi au syndicat mixte des marais, je suis agent de marais, hein, en charge de la lutte contre les espèces invasives de manière générale, avec quelques autres missions complémentaires qui sont dans les marais. Et du coup, mon parcours scolaire, j'ai fait un BEP, entretien de l'espace rural, au lycée naturel à La Roche-sur-Yon, pour finir sur un bac pro GFS, gestion de la faune sauvage, du côté de Vendôme, dans le Loir-et-Cher.
Donc on voit que tous les deux, en fait, vous aviez en tête, hein, de travailler pour la nature, pour la biodiversité quelque part.
Tout à fait, effectivement. Je pense que dans ces métiers-là, il y a aussi un côté passion, très passionnel. On aime finalement l'environnement de manière générale, et cette particularité de notre travail avec ces marais, ces rivières, ces cours d'eau qui font partie intégrante de nos territoires et de nos paysages.
Alors le syndicat mixte des marais, de la vie, du Ligneron et du Jaunet, c'est la réunion de plusieurs collectivités qu'on connaît bien ici sur Neuve, et c'est un très grand rayon d'action vendéen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, hein, ce qu'est le syndicat mixte?
Donc oui, au niveau du syndicat mixte, en fait, c'est un établissement public qui regroupe 6 communautés de communes ou communautés d'agglomération et qui travaille à l'échelle du bassin versant, de la Vie et du Jaunet. Donc ça représente 37 communes sur une surface de 780 km². Donc c'est un terrain assez vaste, avec la particularité d'avoir des cours d'eau et des marais. Donc on a à peu près 900 km de cours d'eau, dont les principaux sont la Vie, le Ligneron et le Jaunet. Et puis donc on a également donc les marais, avec 5500 hectares de marais, avec des marais doux d'un côté, avec une grande partie sur le sud marais breton, et puis également le marais salé.
Donc on vous retrouve sur tout le nord-ouest vendéen, hein, déjà, et bien au-delà. Les principales missions, c'est en grande partie déjà une compétence dite GEMAPI pour ces collectivités.
Oui, tout à fait. Donc la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc c'est une compétence qui est affiliée aux communautés de communes et qui nous l'ont transférée, en fait, finalement. Et donc dans cette compétence-là, nous, on s'occupe uniquement de la gestion des milieux aquatiques, qui concerne en fait la restauration des milieux aquatiques en règle générale, donc des cours d'eau et des marais, dans un objectif de bon état écologique, en fait, de ces milieux.
Et vous avez aussi des missions hors GEMAPI nombreuses.
Oui, donc on a deux principales missions hors GEMAPI, en fait. Une mission liée au SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. En fait, donc on est la structure porteuse de ce document, qui est un règlement de l'eau, en gros, à l'échelle du bassin versant, qui a fixé des grands objectifs sur le bassin versant. Et puis, donc, on a une seconde mission qui est sur la mise en œuvre, en fait, de réserves de substitution, en fait, sur la vie aval, tout ce qui est gestion quantitative, sur une partie de notre territoire.
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à vos actions en faveur de la biodiversité, avec des actions très ciblées. On va revenir donc au marais. Une des priorités pour y préserver la biodiversité, c'est de lutter contre les espèces invasives qui l'étouffent, hein, littéralement. Je me tourne vers vous, Pierre Travers, jusqu'à parfois s'imposer. En tout cas, si on n'y agit pas, ça fait des années que le syndicat agit, en tout cas, avec différentes stratégies. Mais d'abord, on rappelle pourquoi on lutte contre ces espèces. On le rappelle souvent, mais j'aimerais bien entendre votre version.
Effectivement, la thématique des espèces invasives, notamment les plantes aquatiques exotiques envahissantes, celles qu'on retrouve dans nos marais, sont quand même, de manière générale, au niveau européen, la deuxième cause de perte de biodiversité, même au niveau mondial. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir vis-à-vis de ces espèces. Ça fait plus de 35 ans que le syndicat mixte des marais lutte, ou en tout cas essaye de lutter et maintenir la biodiversité dans les marais, parce que finalement, ces plantes-là, vous l'avez très bien souligné, étouffent le milieu, eutrophisent, pour être un peu plus précis, technique, le milieu, et finalement, on se retrouve avec une seule population, entre guillemets, d'espèces, donc les espèces invasives, de manière générale, on parle des plantes, mais il y a aussi les animaux, les ragondins que beaucoup d'entre vous ou d'entre nous pourraient voir, ou sont amenés à voir dans nos marais, et du coup, c'est dans l'objectif, finalement, de mieux lutter pour redonner une partie de la bonne biodiversité dans ces marais, qu'on a pris conscience qu'il fallait gérer les espèces invasives.
Alors, pendant des années, pour parler des plantes, l'arrachage manuel a été la première des stratégies. Alors c'est encore une stratégie, mais plus seulement. Je me trompe ?
Tout à fait. Je confirme que vous vous trompez, entre guillemets. Effectivement, en fait, quand on a finalement eu cette prise de conscience, on n'avait pas le recul nécessaire vis-à-vis des espèces invasives. On ne les connaissait pas. On savait qu'elles étaient présentes dans les marais, mais on s'est dit il va falloir rentrer sur des phases expérimentales. Donc, il y a eu des essais de pelleteuses, amphibies, d'arrachage, de focardage. Et finalement, à partir des premiers grands contrats que le syndicat mixte a signé avec une partie des financeurs qui étaient autour du syndicat mixte, il s'est avéré que finalement, l'arrachage mécanique, donc avec des pelleteuses en combinaison de l'arrachage manuel, a été finalement le plus efficace il y a une bonne vingtaine d'années.
Donc ensuite, arrachage manuel, et aujourd'hui, c'est encore une autre stratégie.
Oui, tout à fait, exactement. Finalement, avec le recul, à la fois du syndicat mixte des marais, des partenaires, aussi des acteurs de terrain, on s'aperçoit que finalement, on rentre dans les années un peu de transition. Il y a d'autres nouvelles espèces qui arrivent. Les coûts ont augmenté, les moyens humains aussi, les plantes aussi. On a de plus en plus de secteurs qui sont aussi colonisés par ces plantes. Et du coup, on est obligé un petit peu de changer notre vision. C'est-à-dire qu'on pratique toujours l'arrachage manuel, mais on se doit aussi finalement de redonner peut-être la capacité au milieu de combattre aussi ces espèces invasives en les restaurant.
Oui, quel procédé. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans un reportage avec, je crois, Victorien Thomas. On peut le réécouter en podcast. Donc, vous allez implanter de nouvelles espèces.
Alors, on ne va pas forcément implanter de nouvelles espèces, mais on va essayer de redynamiser celles qui étaient déjà présentes avant les espèces invasives. On avait des plantes locales qui étaient là, finalement, aussi avant les plantes aquatiques exotiques envahissantes, avant la jussie, le myriophylle du Brésil, qui sont les deux plantes qu'on retrouve sur notre territoire. Et du coup, l'objectif, c'est finalement de redonner plus d'espèces, plus de biodiversité en réimplantant, en plantant tout simplement aussi des espèces locales de manière à compétitionner la jussie, le myriophylle du Brésil qui se trouve finalement présente dans nos marais et redonner une force en fait au milieu de manière à ce qu'ils permettent un certain équilibre dans cet aspect biodiversité.
Autre action importante, celle en faveur de l'anguille menacée, de la biodiversité aussi au sens large évidemment. Petite pause musicale et nous revenons.
Heaven.
La biodiversité samedi se poursuit avec, je le rappelle, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf à l'initiative de cette émission sur 9FM et de l'agenda, des thématiques chaque mois et des invités, les acteurs de la biodiversité. Aujourd'hui, nous découvrons des actions ciblées dans les marais, celles du syndicat mixte des marais de la vie du Ligneron et du Genêt avec Ludovic Priou et Pierre Travers. Alors on va déjà évoquer des actions ciblées dans des marais salés en faveur de l'anguille en danger critique d'extinction. Je me tourne vers Ludovic cette fois.
Oui, tout à fait. Donc, on a mis en place en fait des actions donc en faveur de l'anguille, mais pas que. Hein, c'est l'anguille et la biodiversité en règle générale sur le marais salé de la basse vallée de la Vie. Alors pourquoi on a mis en place ces actions hein, c'est par rapport à cette espèce justement qui est en danger critique d'extinction. Donc pourquoi elle est en danger critique d'extinction? C'est qu'en fait on la retrouve vraiment en très faible nombre, alors qu'il y a plusieurs dizaines d'années, voilà, elles étaient en beaucoup beaucoup plus grand nombre finalement. Donc en fait il y a un organisme, hein, l'UICN, qui a classé en fait cette espèce. Donc au niveau européen, donc il y a eu un plan de sauvegarde de l'anguille qui a été mis en place, et donc nos secteurs côtiers ont été définis en zone d'action prioritaire pour l'anguille.
Donc zone d'action prioritaire parce que c'est une zone qui est privilégiée par les anguilles dans leur croissance, alors à la fois la colonisation et la migration. On sait qu'elles viennent de très très loin, hein, et normalement ici effectivement depuis des siècles peut-être.
Oui, tout à fait. Donc en fait l'anguille, il faut savoir que donc, c'est une espèce amphialine, c'est-à-dire qu'elle vit alternativement en eau douce et en eau salée. Donc en fait, elle se reproduit en fait dans la mer des Sargasses, qui est située le long de l'Amérique centrale. Et donc, lorsqu'elle se reproduit à peu près 2 km de profondeur, hein, 2000 mètres de profondeur, donc il naît en fait des larves, les larves leptocéphales, qui se laissent porter par les courants marins pour arriver jusqu'à nos côtes, finalement, où là, elles se transforment en civelles. Puis donc, elles colonisent les cours d'eau, vont vers l'amont pour grandir. Et quand elles ont atteint leur stade de maturité, donc 5 ans pour les mâles, un peu plus longtemps, 9 ans, voire 10 ans pour les femelles, eh bien, à un moment donné, elles se disent, allez, il faut que je reparte. Et donc, elles repartent vers la mer pour se reproduire. Voilà, donc c'est pour ça que nos secteurs côtiers, en fait, sont des zones d'action prioritaires pour l'anguille, puisque c'est les premiers secteurs de colonisation de l'espèce.
Et donc, vos actions, elles vont à la fois œuvrer pour la colonisation, donc qui dure quelques années, pour chaque anguille dans le cours de sa vie, et pour qu'elle soit efficace, mais aussi pour que la migration ne soit pas freinée ou même bloquée, ce qui est apparemment le cas.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous, nos actions, ils se concentrent sur des bassins dans le marais salé, où donc en fait chaque bassin est alimenté par une prise d'eau finalement, et donc les anguilles, les civelles même quand elles arrivent plus précisément, en fait rentrent dans ces marais-là pour grandir. Donc c'est les premières zones de colonisation comme je disais tout à l'heure, et donc après on a fait en fait des suivis anguilles qui nous ont permis de voir en fait que les populations d'anguilles étaient vieillissantes sur nos marais. Donc ça veut dire qu'elles n'arrivaient pas à repartir. Pourquoi? Parce que les prises d'eau en fait elles sont fermées continuellement sur ces marais-là qui sont parfois donc en déprise finalement et où il n'y a plus de gestion. Donc c'est là que nous on intervient finalement pour restaurer ces prises d'eau là, pour permettre à la fois aux anguilles de rentrer dans le marais, mais aussi de pouvoir repartir quand elles sont arrivées à maturité.
Vous avez plusieurs travaux qui ont démarré fin 2023 sur ces prises d'eau, sur des tuyaux d'empoisonnement qui vont être fixés. Un tuyau d'empoisonnement qui a déjà été fixé?
Oui, donc en fait, alors c'est un peu plus technique, hein, mais c'est vrai que le marais, en fait, il est composé d'une prise d'eau principale qui permet de prendre de l'eau ou de l'évacuer pour vidanger le marais, finalement. Et puis, donc, on peut poser des tuyaux d'empoisonnement. Donc, c'est des tuyaux, en fait, qui sont mis à un niveau moyen de digue qui correspond à un coefficient à peu près de 70 et où on retrouve une végétation particulière qu'on appelle le fourré halophile. On a des espèces de végétaux qui sont support d'une richesse de biodiversité particulière. Donc, on le pose à ce niveau-là. Et donc, comme le poisson et l'anguille, quand elle migre, en fait, c'est plutôt en surface, finalement, mais ce tuyau d'empoisonnement qui vient un petit peu plus haut permet aux anguilles de rentrer au moment de ces coefficients-là.
Alors, vous avez travaillé à partir d'une étude qui a été réalisée avec plusieurs partenaires en 2022, et un suivi donc, va aussi être opéré, ou ça a déjà commencé, déjà peut-être aussi?
Oui, donc alors ce groupe de travail, c'est vraiment un groupe de travail, je vais dire, multi-acteurs, dans le sens où on va avoir des acteurs locaux, avec l'association syndicale de propriétaires de marais, les communes concernées, les élus, et puis également des experts techniques en fait. Donc en particulier, on a beaucoup travaillé avec l'association Logrami, donc qui est l'association Loire Grand Migrateur. Et comme son nom l'indique, elle est experte en fait dans le domaine des poissons migrateurs, dont l'anguille. Donc ils nous ont amené des connaissances et donc on a réalisé des suivis. Donc on a réalisé des suivis avant travaux, donc à l'aide de NAS, qui nous ont permis en fait justement, comme je l'indiquais tout à l'heure, de déceler des populations vieillissantes et des problématiques sur les différents marais. Et donc là, on va faire un suivi maintenant après travaux, où on va installer installer, donc c'est pas encore commencé, hein, on va installer en fait des filets qui vont nous permettre de capturer les civelles quand elles rentrent dans le marais.
Ces aménagements sont destinés, on l'a entendu, à permettre une mobilité optimale des anguilles et de différentes espèces d'ailleurs autour. On va parler en dernière partie d'émission de la biodiversité en général, de vos actions que vous défendez, donc que vous préservez cette biodiversité. À tout de suite. Pour la biodiversité par des actions très concrètes. Dans la biodiversité samedi aujourd'hui, deux acteurs qui œuvrent au sein du syndicat mixte des Marais de la Vie, du Ligneron, du Jaunet, sur un grand territoire vaste en Vendée, Ludovic Priou et Pierre Travers. Alors vous travaillez dans ces marais qui regorgent de biodiversité. On a évoqué un peu le végétal, des travaux visant à améliorer la colonisation puis la migration des anguilles. Mais les marais, ce sont plein d'espèces que vous prenez en compte. On peut en rappeler quelques-unes avec Pierre, Ludovic, Pierre.
Oui, effectivement, la biodiversité, c'est un terme assez général, très large. nos marais, nos rivières, nos cours d'eau en regorgent. On peut citer comme exemple la loutre d'Europe. Hein, c'est vrai qu'en améliorant finalement la qualité de l'eau, on améliore aussi les populations piscicoles, on améliore finalement le régime alimentaire un petit peu de cet animal qui est assez emblématique des marais et qui a tendance à revenir. On a pu le constater cette année puisqu'on en a observé deux, nous, en pleine journée dans nos marais. On a aussi, pour citer un petit peu des plantes, l'hydrocharis des marais, qui a tendance maintenant aussi à revenir, qui a une particularité un petit peu dans nos marais. Donc toutes ces espèces-là restent emblématiques. On a aussi le canard souché. Hein. Faut savoir qu'en Vendée, on est l'un des premiers sites aussi de reproduction de cette espèce. Donc la biodiversité, elle regroupe aussi toutes ces espèces. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de pouvoir préserver, entretenir nos marais en maintenant toutes ces actions.
Alors vous avez parlé d'entretenir, ça c'est hyper important parce que laisser un marais à l'abandon, c'est justement aussi laisser sa richesse de vie et de biodiversité en perte de vie aussi.
Oui, tout à fait. Et l'entretien des marais, finalement, doit rester une priorité. Un marais, une zone humide, si vous la laissez évoluer, c'est-à-dire que si vous l'entretenez plus, si la main de l'homme n'est plus dans cette zone, ça devient finalement un marécage, une forêt, et puis vous perdez finalement cette richesse qui fait finalement la force des marais. Vous en obtiendrez sûrement une autre, mais quand on vise finalement à préserver les marais, autant essayer de les conserver. Ça passe par plusieurs stades aussi, hein, le syndicat mixte en a bien conscience, hein, tous les acteurs qui sont autour de ça, le monde agricole, qui est aussi l'un des premiers volets qui permet l'entretien du marais, en complément des actions du syndicat mixte des marais. Et puis tous les propriétaires riverains aussi, qui ont le devoir, entre guillemets, mais ils sont en général passionnés par ces zones-là, et ils le font très bien. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir autant de marais sur notre département.
Alors vous travaillez aussi à des aménagements, alors on l'a vu par exemple, hein, c'est un exemple, la protection de l'anguille, mais vous avez aussi en vue de protéger des habitats variés, alors je pense, j'ai vu sur un dossier que vous m'avez envoyé, des travaux sur l'habitat prioritaire lagune côtière. Oui. C'est Ludovic.
C'est ça, voilà. Donc du coup, le projet, en fait, on va dire d'aménagement des marais salés, en fait, il vise deux objectifs, à la fois l'anguille, mais aussi donc tout ce qui est habitat lagunaire, en fait. Donc c'est un habitat prioritaire au titre de la directive Habitat, donc dans le cadre de Natura 2000, qui est marqué en particulier donc par une végétation particulière donc aquatique finalement, mais aussi tout ce qui va être lié aux forêts halophiles, donc cette végétation qui se crée avec l'aubione, les soudes maritimes ou la salicorne par exemple. Donc on a le projet en fait intègre ces éléments-là avec des aménagements, par exemple des marais, des berges en pente douce pour favoriser l'implantation de cette végétation-là, et puis une gestion des niveaux d'eau avec un marnage. Donc c'est une différence de niveau d'eau journalier comme dans les étiers en fait ou comme dans les serres qui va favoriser en fait l'implantation de cette végétation. Donc on travaille sur ce projet-là de façon étroite avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf en fait, qui est la structure animatrice Natura 2000, pour pouvoir concilier à la fois les travaux sur l'anguille par le syndicat mixte, mais aussi et peut-être des travaux dans le cadre de contrat Natura 2000 avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf.
Et en vous écoutant sur toutes ces missions, et encore on parle que de certaines d'entre elles, hein, vous êtes combien à travailler sur ce territoire pour le syndicat?
Alors sur le syndicat, donc on est 9 agents, avec donc 4 personnes plutôt techniques, donc 2 agents de marais et donc 2 techniciens, 2 personnes plutôt sur l'administratif, et puis 3 personnes au niveau du SAGE, le schéma d'aménagement et gestion de l'eau.
Cette nouvelle année qui s'ouvre, la 2024, on est la première semaine. Vous avez des projets qui vont vous occuper en priorité là, dans les premières semaines?
On a finalement des projets un petit peu par période. Il faut savoir que voilà, le syndicat mixte a un panel finalement de missions au niveau des marais, des cours d'eau, de la gestion de manière générale. Donc c'est aussi un peu les saisons qui régissent en tout cas nos missions. Si je prends mon exemple personnel, en tant qu'agent de marais, on a nos chers ragondins et ramusqués qui nous prennent beaucoup de temps, et c'est vrai que le début de saison c'est le pic de reproduction un petit peu des ragondins et des rats musqués, et du coup on axe vraiment aussi notre temps sur cette mission-là qui est relativement importante aussi en termes de biodiversité. Les ragondins et les rats musqués causent de nombreux dégâts, donc on se doit de les gérer, et en Vendée on est un département où avec la capacité des zones humides, on a de très fortes populations, et finalement quand on rentre plutôt sur la période printanière et estivale, c'est là où finalement on va s'orienter un peu plus sur les plantes, la gestion des ouvrages aussi. Donc c'est ces périodes qui régissent un peu nos missions.
Et je ne vous ai pas demandé comment vous luttez contre les ragondins et les rats musqués.
La lutte, finalement, elle est organisée grâce à du bénévolat. Je vais vraiment axer ça sur cette priorité. Le syndicat réalise du piégeage et des opérations de régulation par tir sur les populations de ragondins et rats musqués. On est deux agents à réaliser ça au syndicat. Mais surtout, on a un réseau de 80 piégeurs bénévoles installés sur notre territoire. Et c'est eux, vraiment le nerf principal de cette lutte, puisque ce sont en général des anciens agriculteurs, des passionnés de marais, des maraîchins, comme on peut dire, qui sont amoureux de ces marais et qui gèrent, en faisant soit du tir, soit du piégeage, ces populations de rongeurs. Là, cette année, on est sur une tendance à 4000 individus capturés, mais on est sur des années assez faibles, puisque la moyenne de nos captures, c'est 10-11 000 captures.
Bon, on l'entend, ce sont quand même beaucoup de missions, beaucoup de projets. Ça coûte combien tout ça et qui finance ?
Toutes nos actions, en fait, sont intégrées dans ce qu'on appelle un contrat territorial aux Viégeonnais, avec trois financeurs principaux, donc l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région des Pays de la Loire et le département de la Vendée. Donc c'est un contrat sur 3 ans, avec pour le syndicat mixte à peu près 1 million d'euros de travaux tous les ans, dont une grosse partie en fait qui est réalisée sur la restauration en fait morphologique des cours d'eau, où là on a des budgets à hauteur de 6 à 700 000 euros par an pour restaurer les petits cours d'eau de tête de bassin versant, en plus des marais.
Pour terminer, alors vous œuvrez tous les deux pour un territoire qui est magique. Est-ce que c'est cette magie qui vous motive au quotidien dans la lutte pour la biodiversité ?
Ouais, tout à fait, ça en fait partie. Si on reprend le point de vue personnel en mettant un petit peu le syndicat de côté, en ce qui me concerne, je pense que c'est des métiers de passion. Moi, je suis né devant les marais. Je savais peut-être même déjà enfant que j'allais, ou en tout cas que je m'orienterais vers finalement la gestion de ces marais, l'entretien. J'ai de nombreux souvenirs étant enfant où on se promène dans les marais, où on observe toute cette biodiversité et qu'on a à l'heure d'aujourd'hui comme mission de redonner de l'espace, du pouvoir à cette biodiversité et puis surtout en garder un souvenir pour les générations qui arrivent. L'objectif, c'est pas qu'ils voient que de la jussie ou des ragondins dans nos marais, c'est d'équilibrer la balance pour laisser quelque chose aussi à ceux qui arrivent derrière, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et le grand public, bien sûr.
Et Ludovic, vous aussi, vous êtes captivé par cette magie de la biodiversité ?
Oui, tout à fait. Comme dit Pierre, il faut être passionné par tous ces milieux pour réaliser ces métiers-là. Pour moi, l'important aussi, c'est les échanges avec les acteurs de terrain, en fait, qui sont très riches et très variés, finalement. Même si parfois, les discussions s'arrêtent, car on n'a pas le même point de vue sur tout, forcément, car il y a des choses qui évoluent, qu'il faut faire évoluer, d'autres qu'il faut essayer de conserver. Mais c'est vraiment important, cette concertation avec les acteurs de terrain, pour avancer tous ensemble dans les projets, sans oublier personne.
Écoutez, merci beaucoup, c'était très riche. Et encore, je sais que j'avais plein d'autres questions et que vous aviez beaucoup, beaucoup d'autres réponses. On va vous retrouver lundi en podcast.